Ultime Trail Experience. Philippe et Mathieu forment un duo père-fils aussi solide qu'attendrissant. Philippe a 67 ans. Retraité depuis peu, il profite aujourd'hui de son temps libre pour perfectionner son swing, parcourir les routes bretonnes et bordelaises à vélo et passer du temps en famille. Ce père de trois grands enfants, dont Mathieu, a réussi à transmettre à sa famille sa passion pour les longues balades en montagne. Mathieu, quant à lui, a 36 ans. Cet infatigable sportif ne passe pas une journée sans enfiler une paire de baskets, enfourcher son vélo ou s'installer confortablement sur son tapis de yoga. Vous le connaissez peut-être sous la casquette du trésorier du Team Trail Paris. Mais Matt ne fait pas que gérer la moula du club. Il encadre aussi nos stages et partage le reste de son temps entre son travail en finance, sa famille et ses amis. Adepte d'itinérance et amoureux de nature, il aime partager ses aventures avec ses proches. Son attachement particulier pour la région de Chamonix et son envie de faire vivre une belle aventure à son père l'ont emmené à penser à un projet ambitieux, un tour du Mont Blanc entre père et fils. Maintenant, place à Mathieu et Philippe. Ils vont partager avec nous leur aventure sur le tour du Mont Blanc.
On a été initié très jeune à la rando, donc on a beaucoup marché dans les Pyrénées tous les étés, au moins une semaine, si je me souviens bien, tous les étés. Et effectivement, on avait déjà ça un petit peu dans le sang, quoi. Et le tour du Mont Blanc, c'est quelque chose qui est un peu mythique, quelque chose dont on parle de manière un petit peu officieuse, de manière un petit peu récurrente notamment. Et au-delà de ça, le tour du Mont Blanc est souvent associé à l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est moi et mon rêve depuis quelques années, avec de nombreux refus au tirage au sort. Et donc tout est un petit peu lié, et à travers effectivement ce mythe et cette envie de faire l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, on en est arrivé à parler pas mal du tour du Mont Blanc, de cette boucle autour de ce gros caillou blanc là qui nous observe aujourd'hui. Et c'est devenu une envie, presque une quête, en tout cas pour moi, et une envie aussi de le partager en mode randonnée avec mon père. Donc on en a parlé il y a, je sais pas, 3, 4, 5 ans, je sais pas déjà, le temps que ça infuse un petit peu, et c'est quelque chose qui est long, c'est 170 km, avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Bon, on peut le faire en 15 jours si on le souhaite, mais c'était pas forcément l'objectif. Et donc c'est quelque chose qui, et je vais te laisser continuer après, qui te faisait peut-être pas peur, mais en tout cas que tu appréhendais beaucoup, notamment de par son âge, est-ce que j'en suis vraiment capable aujourd'hui, de par mon entraînement, etc., etc., et puis de par mes capacités physiques, liées à l'âge, liées aussi à la tête, beaucoup. Donc on en a parlé de plus en plus, et c'est devenu quelque chose de réel et un projet qu'on a construit en quelques années. Ouais.
Alors moi j'avais déjà entendu parler à plusieurs reprises du Tour du Mont Blanc, que j'avais des amis notamment qui l'avaient fait, mais des amis qui l'avaient fait dans des conditions finalement que je juge aujourd'hui assez confortables, dans la mesure où ils faisaient transporter leur sac d'un refuge à un autre, et puis je réalise aujourd'hui qu'ils l'ont fait en un temps en plus qui est beaucoup plus important que celui que Mathieu m'a proposé. Donc oui, j'en avais entendu parler. Ensuite, donc Mathieu m'en a parlé, me l'a proposé. Je me suis dit, bon, a priori, mes amis l'ont fait dans certaines conditions, certes, mais pourquoi pas, je ne suis pas si vieux que ça. Et je devrais m'en sortir. Mais là où j'ai commencé à m'inquiéter un peu plus et à appréhender, c'est quand j'ai vu ce que Mathieu m'a proposé comme parcours. Et le temps, où là, j'ai m'a préparé un beau fichier Excel sur lequel j'ai pu voir qu'on faisait ça en 7 jours. Et sur ce fichier, on voyait que certaines étapes, et c'est était assez costaud, une ou deux en particulier. Et donc là, j'ai commencé, oui, à me poser des questions. J'ai pas tout de suite répondu à Mathieu. Sur le principe, j'ai dû lui dire oui. Mais ensuite, je pense que j'ai pris le temps de la réflexion et je suis revenu régulièrement vers lui pour lui dire, est-ce que tu crois pas que là, c'est un peu trop, est-ce qu'on peut pas décaler, faire un jour de plus, je sais pas quoi. Enfin bon, on a eu des échanges sur le sujet, je crois qu'on en a eu plusieurs. Et je crois que Mathieu, finalement, m'a convaincu que ses options étaient la bonne. Il y a dû y avoir un seul changement à un moment donné sur un refuge parce qu'il y en a un qui était fermé. Mais jusqu'à la fin, et même pendant le TMB, je suis resté avec une ou deux étapes en particulier que j'appréhendais beaucoup parce que une longue distance et un dénivelé, donc le combo me paraissait un peu insurmontable.
Le but était effectivement de faire le tour du Mont Blanc, mais qui a un minimum de challenge sportif. sinon c'est pas très amusant. Et j'étais absolument persuadé, étant donné les exercices que et la santé qu'avait, enfin, qu'a toujours mon père, que ce programme-là, en 7 jours et des brouettes, 7 jours et demi exactement, était totalement possible. Et lui prouver en gros qu'il était capable de faire ça, parce que les pensées auto-limitantes, on les connaît, notamment en tant qu'ultra-trailer ou trailer. On se convainc parfois qu'on n'est pas capable d'eux, mais l'inverse est souvent le cas. Qui plus est de partager ça, on se découvre d'autant plus. Alors pas forcément dépasser ses limites, mais en tout cas les approcher. Donc du coup, le but effectivement était de présenter quelque chose de faisable, mais avec un certain défi. Pour faire passer un peu plus la pilule, entre guillemets, le but était de le faire un en juin. On a eu la chance de sortir, c'était en juin 2021, et on sortait de la période Covid. Donc il y avait un, très très peu de monde. Deux, les refuges avaient une restriction de 50% de capacité. Il y avait très très peu de monde en refuge, ça, on en reparlera, c'était génial. Et au-delà de ça, on avait un sac relativement léger, car j'ai tout de suite supprimé l'option tente et autosuffisance. Ce qui permettait d'avoir un sac relativement léger, entre allez, 7 et 10 kilos maximum. Toi, je pense que tu étais aux alentours de 7-8, avec l'eau. Et donc, ce qui pouvait faire passer les étapes relativement plus facilement. Et au-delà de ça, effectivement, entrecouper les étapes de manière homogène, avec des jours un peu plus de récupération, qui permettaient d'absorber les étapes un peu plus longues de la veille, ou d'anticiper les étapes plus longues du lendemain.
Pour m'entraîner, en fait, un peu plus spécifiquement pour ce Tour du Mont Blanc, ça peut paraître un peu banal et un peu dérisoire, mais j'ai fait plusieurs séries de marches de 20 km et un peu plus dans Bordeaux pour vérifier que je tenais la distance sur les 20-25 km avec les chaussures, le rando, avec les bonnes chaussures, avec le bon équipement, sans le sac. Bon. Au moins, ça m'a rassuré un peu sur la distance. Maintenant, en termes de dénivelé, j'ai pratiquement rien fait.
Il faut juste préciser qu'en juin, là, il était assez tôt et il y avait beaucoup, beaucoup de neige dans l'école. Donc, je me suis précipité pour acheter des crampons, chose qui a été très importante et vitale, si j'ose dire, dans la mesure où toute l'école était quand même bien chargée en neige et que ça a été quand même une sécurité indispensable, notamment en descente. J'ai eu la chance, en fait, j'étais dans le coin un petit peu avant parce qu'on avait fait le tour du Mont Blanc en 4 jours avec des copains avant pour la préparation d'un copain à l'Ultra Trail du Mont Blanc, justement. Donc, j'étais déjà bien... bien rôti comme il faut, donc prêt pour le refaire en rando. T'es arrivé, si je ne m'abuse, un jour avant, parce qu'on avait dormi aux Ouches avant. Donc la première journée a été plutôt sereine, dans la mesure où on a pu se poser après aux Contamines tranquillement et faire le plan de manière sereine, sans stress.
Le départ est très simple, en fait. C'est une mise en route longue et progressive avec Notre-Dame de la Gorge, avec le Col du Bonhomme. Tout ça, c'est très progressif et ça s'est déroulé, mais alors de façon... j'étais très étonné moi-même.
Et effectivement, je me souviens très bien de ta première remarque à Notre-Dame de la Gorge. Ah, on a déjà fait 4 km sur une vingtaine qui est restée. C'est rapide. Et je lui ai dit oui, effectivement, mais il y avait zéro dénivelé pour le moment. c'est maintenant que les choses commencent à Notre-Dame. Et effectivement, on est monté jusqu'au Col du Bonhomme, puis on est descendu au Chapieux. Pour aller ensuite au motet de manière sereine et finalement assez vite, puisqu'on est parti tôt. Effectivement, le but était d'arriver également tôt au refuge à chaque fois pour en profiter et se faisait un petit film à chaque fin d'étape pour les impressions.
C'était super, ça.
Etc., oui. etc. Pour que ce soit partagé aussi ensuite et puis gravé comme tu as pu le voir.
Le lendemain matin, grande surprise aussi, parce que je crois que c'est là. C'était le col de la Seigne,
oui, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est ça, j'en étais dit, ouais.
Alors, grande surprise, parce que j'ai avalé entre le refuge des Motets et le col de la Seigne, je ne sais plus, il y a 700 mètres de dénivelé.
Ah, bon, c'est un bon 700.
Bon 700. Je l'ai avalé, mais alors, ça s'est passé très vite. Donc aucun souci pour aller jusqu'au col de la Seigne. Globalement, sur l'étape jusqu'à Maisonvieille, là, en Italie, c'est assez relativement bien passé.
Ouais. Et puis Maisonvieille, c'est l'un des refuges que je préfère parce qu'effectivement, on mange très bien. Et au-delà de ça, on était quoi ? On était 4-5 refuges. Ouais. Conditions incroyables. Et donc là, tu as le Primi Piatti, le Secondi Piatti, et donc là, c'est chouette. C'est chouette après une bonne journée de rando qui s'est terminée sous l'orage d'ailleurs. C'est vraiment chouette de pouvoir profiter effectivement de ça. On a rencontré des gens avec qui on a partagé un petit bout de chemin hein, sur les 6-7 jours. Et ce qui était génial, c'était que c'était en petit comité, donc assez intimiste. Donc on a pu effectivement avoir des conversations, notamment je me rappelle avec un certain Allemand qui venait de Hambourg, alors je me souviens plus son prénom. Exact. Qui était assez génial, qui faisait son tour du Mont-Blanc tout seul. Et effectivement, comme tu le dis, rencontrer des gens comme ça, en refuge, après une grosse journée de rando, peu importe ce qu'on est dans la vie, ce qu'on fait, quel travail on a, qu'est-ce qui nous est arrivé. Et là, en fait, on parle de choses simples de la vie. C'est le vrai bonheur, quoi.
Ces petites vidéos que Mathieu avait initiées à la fin de chaque rando et qu'il envoyait en plus à toute la famille derrière, donc ils arrivaient à nous suivre sur le problème de réseau à peu près chaque jour. Et ces petites vidéos, c'est génial parce que je les regarde de temps en temps encore et ça permet de mesurer un peu dans quel état. Parfois j'ai l'air un peu consommé, mais un peu. Ben, je suis plus très frais, quoi. Je vois sur la vidéo que j'ai bien donné. Ça faisait plaisir sur le moment de communiquer à chaud sur tout ce qu'on a vécu et ça fait plaisir aujourd'hui de les reconsulter de temps en temps.
Et au-delà de ça, tu parlais de rituels et autres, mais je pense que dans sa tête, 7 jours, c'était assez long. Et je lui disais chaque jour que profite, parce que tu verras que c'est très court au final. Une itinérance, en général, ça passe très vite, parce que les journées sont rythmées. Et au final, en fait, on ne voit plus passer les jours. Et je pense que tu confirmeras, mais c'est passé, je pense, pour toi très vite au final. Même si 7 jours, ça peut sembler long. Chaque jour, il faut se dire qu'on a la chance d'être là et qu'on le vit dans des conditions idéales, en plus. Bon, sauf le dernier jour, on en reparlera tout à l'heure.
Cette rando-là, on a pendant 7 jours, je l'ai vécu un peu comme une parenthèse dans le temps. Parce que même si je suis à la retraite, le temps passe à une vitesse faramineuse. Et on a toujours multiples choses à faire, des activités, des choses en tête. Et là, pendant une semaine, dès le premier jour, là, le cerveau se met un peu dans une autre configuration. Et on prend le temps. On prend le temps de regarder, on prend le temps de contempler, on prend le temps de réfléchir un peu intérieurement, on prend le temps de parler ensemble. Et ça, c'est précieux. Il y a tout à coup, parce qu'on est calme, parce qu'on est concentré sur le jour et l'environnement, il y a plein de choses qui viennent à la tête. Et on a été amenés tous les deux à aborder tout un tas de sujets avec le temps. Avec le temps qu'il faut pour aller un peu en profondeur. Enfin, c'est assez rare, finalement. À un moment donné dans la vie avec ses enfants, pendant une semaine, de tendre vers le même objectif ensemble. On avait un objectif commun. Ce qui n'est pas si fréquent finalement entre un père et son fils. Et donc le fait d'avoir cet objectif commun, ça a réalisé une sorte d'osmose particulière entre nous deux, un peu plus prononcée, puisqu'on a vécu les mêmes choses, on a vu les mêmes choses. Il m'a vu souffrir à un moment donné. On a fait les mêmes rencontres, on a fait. Donc voilà, c'est une osmose particulière qui s'est créée à ce moment-là. Ça n'a rien changé, mais c'est un moment de plus. Ça construit finalement encore un peu plus une relation entre un père et son enfant, entre un père et son fils.
Et c'est aussi ce que je voulais lui faire comprendre, même si enfin, je savais pas si, tu vois, dans la tête d'un père de 65, 67 ans, est-ce que je suis encore capable de faire des choses avec mes enfants? Enfin, ce genre de choses. Et je voulais lui prouver par ce genre de choses et que c'était tout à fait possible et qu'il n'y avait aucun souci, effectivement, à partager ce genre d'effort durant une période longue avec ses enfants, quel que soit l'âge. Parce que si la tête le souhaite, le corps suivra dans tous les cas.
Mathieu a un tel niveau sportif que la randonnée du jour, à la limite, chaque randonnée du jour ne lui suffisait pas. C'est-à-dire qu'il était devant moi, bien évidemment, m'attendait régulièrement, et puis dès qu'il sentait que le col n'était pas trop éloigné, en fait, il me lâchait bien. Moi, je continuais régulièrement. Il arrivait en haut du col, tous les cols de la randonnée, hein, sur les 16 jours. Il posait son sac et comme ça lui manquait, il descendait en courant pour me rejoindre. Et ensuite, il m'accompagnait jusqu'au col pour me supporter dans les derniers efforts. J'ai ressenti une première difficulté vraiment. C'était le quatrième jour, c'est ça? Non, le troisième jour. C'était entre Maisonvieille. Voilà, c'est ça. C'était entre Maisonvieille et Arnouvin. D'abord la descente, sur Courmayeur. Bon, je l'ai relativement bien géré, mais il y a une longue descente qui n'est pas vraiment sympathique sur Courmayeur. Donc, je suis allé doucement à cause des genoux. Ensuite, il y a une montée assez raide là, sur Bertone, je crois, etc. Donc, j'y suis allé doucement là aussi. Le panorama ensuite sur ce versant italien est somptueux, c'est extraordinaire. Pendant une dizaine de kilomètres, là, on a un balcon sur le Mont Blanc, les grandes Jorjoras, etc. C'est somptueux, c'est merveilleux. Et puis, mais c'est très long, donc c'est une étape. Et à un moment donné, avant de la descente sur Arnouvin, là, à un moment donné, il y a eu un petit passage de torrent.
C'est un pont de neige.
Avec un pont de neige. Je devais déjà un peu fatigué et manquer un peu de lucidité probablement. Et j'ai mal placé mon pied, je me suis étalé tout mon long dans le temps, avec le bras qui est un peu parti, j'ai ressenti une douleur à l'épaule, etc. Donc je me suis dit, oulala. Mais finalement, je m'en suis bien sorti, la douleur, elle a disparu en quelques heures. Donc pas de mal. Mais là, il y a eu une première alerte, quoi. Et s'en est suivi une longue descente sur Arnouvin, justement.
Sur le... Je l'ai perçu comme longue, mais c'est pas si longue que ça.
Très, très longue. Où là, du coup, avec ce qui s'était passé, je me sentais un peu atteint. Donc, je crois que tu m'as allégé de mon sac dans les dernières centaines de mètres pour descendre.
Ouais.
Et puis après, j'ai pu me reposer au refuge.
Mais
ça, ça, c'était une première alerte.
Alors là, c'était le troisième jour.
C'était le troisième jour.
Troisième jour, on dit souvent que le troisième jour, c'est un peu le jour un petit peu clé qui permet de voir si ça va aller ou ça va bloquer. Et donc, je pense que physiquement, ça allait. Et à partir de ce moment-là, c'était parti.
Le quatrième jour a été... c'était une très, très longue étape, le quatrième jour. Je me suis un peu préservé pour le cinquième que j'appréhendais depuis le début. C'était le jour que j'appréhendais depuis le début. Parce que j'arrêtais pas de regarder ma carte de 25 millièmes, mais depuis que Mathieu m'avait proposé sur son fichier Excel. Quoi, je me disais, il y avait plusieurs montées. Donc le quatrième jour a été salutaire pour me préparer un peu au cinquième. C'était parfait. Mais le cinquième a été costaud, mais finalement, je m'en suis pas si mal tiré. Une montée vers Bovine, là, c'est ça, qui était un peu rude. C'était la première. Une bonne centaine de mètres de dénivelé positif. Et puis ensuite, il y avait une descente sur Triangle qui était assez longue, je crois.
Ouais.
Mais surtout la montée vers le
col de Balme.
Col de Balme. Voilà, c'était la deuxième montée très importante et que finalement j'ai déroulé. Je dirais pas les doigts dans le nez, mais bien régulièrement et de façon sereine. Comme j'avais commencé sur ce tour du Mont Blanc dès le début, et ça s'est très très bien passé. Donc j'ai eu tort d'appréhender, mais c'était un bel effort sur toute la journée. Et par contre, le sixième jour, je l'ai senti dès le matin, de toute façon en me levant, je me sentais un peu flottant, un peu pas. J'étais pas complètement lucide, j'étais un peu dans les nuages, quoi. Pas dans les nuages, dans le coton. Mais bon. On en est parti, on avait déjà adapté la rando pour supprimer le brévent parce que les conditions étaient orageuses, c'était pas prudent. On avait envisagé le lac Blanc pour agrémenter un peu du coup et faire quand même un peu des plus. Puisque, comme l'a dit Mathieu, une randonnée qui ne fait pas 1000 mètres de déplus, c'est pas une rando. Donc voilà.
Et je dis ça.
Donc on avait mis le lac Blanc et puis finalement, la montée vers la Flégère, là, bon. Je souffrais un peu, j'avais du mal, vraiment. Je me sentais toujours un peu cotonneux. Et c'est là où j'ai décidé, Mathieu m'a laissé décider. Il a toujours été très très attentif tout le long de la rando, très très à l'écoute. Donc j'ai décidé de à la Flégère, d'arrêter, de descendre sur les Prats, c'est ça. Et on a poursuivi jusqu'aux Jouches, ensuite à pied tranquillement à plat. Pour relâcher, pour évacuer et pour se préparer à la journée du lendemain. Voilà, c'est la seule journée finalement où il y a eu un trou d'air.
Voilà, et ce qui a été une très bonne décision, parce que bon, on a quand même fait le tour du Mont Blanc, mais sans le dénivelé effectivement des Aiguilles Rouges. Et ce qui nous a permis de finir de manière en très bonne forme la dernière étape. On avait divisé la dernière étape en deux juste pour profiter du dernier soir. On aurait pu aller directement des Ouches au Contamine. Via le col Tricot, donc qui est une variante du Tour du Mont Blanc, que j'affectionne particulièrement, notamment pour ce mythique col Tricot qu'on voit depuis les auberges du Truc et depuis Miage, qui est absolument magnifique, je trouve. Donc je voulais faire passer papa par là, puisque l'autre chemin est un petit peu moins sympa en termes de paysage. Et effectivement, je voulais qu'on dorme à Miage le soir pour profiter de cette dernière soirée en refuge, avant de rentrer tranquillement le lendemain sur les Contamines. Et du coup, effectivement, on avait checké un petit peu les conditions météo. Il prévoyait une première salve orageuse à partir de la mi-journée, mais plutôt en début d'après-midi. Et il se trouve qu'en fait, l'orage est arrivé beaucoup plus tôt que ça. Et quand je dis beaucoup plus tôt, c'est aux alentours de 10-11 heures du matin. Donc dans la montée vers le col Tricot, en partant de Bellevue, on avait senti quelque chose arriver. Donc là, tout de suite, je dis à papa, mets-toi en poncho. Tout de suite. Je sens qu'il y a un truc, il y a du vent là, qui se lève, c'est pas très bon. Malheureusement, on n'avait pas la possibilité de faire demi-tour ou de se mettre à l'abri. Donc on a choisi de continuer, mais de se mettre à l'abri via nos ponchos, de bien se couvrir en tout cas. Et là, malheureusement, on s'est chopé l'orage pile au moment où il fallait pas, c'est-à-dire dans la montée du col Tricot. Donc on était à 300-400 mètres du col. Donc à découvert, et heureusement sans trop de cailloux autour de nous ou de choses effectivement qui pouvaient attirer les éclairs. Mais on était sous l'orage et on était bien, bien dessous. Une petite expérience qu'on n'aime pas vivre en montagne, parce qu'on est là du coup, on se sent tout de suite encore plus rien, encore plus vulnérable. Et là, il n'y a pas grand chose à faire à part laisser les bâtons de côté et attendre que ça passe, se mettre en boule.
C'était d'une violence. Wow. J'étais impressionné, j'ai jamais vécu ça en montagne. Quand j'emmenais les enfants en dos, je faisais toujours attention parce qu'on se retrouve jamais. On n'est jamais le risque de gérer ce genre de situation. Mais là, on a vraiment été surpris et c'était d'une violence inouïe. C'était beaucoup de vent, beaucoup de pluie, des orages qui tenaient fort et des éclairs. Des grêlons, le sol était couvert de grêlons, c'était impressionnant. Ça piquait, ça défonçait la peau. Les éclairs tombaient, on voyait un petit peu partout. Enfin, moi, j'ai ça en mémoire, une violence terrifiante. Comme dit Mathieu, oui, il m'a fait balancer les bâtons au loin. On s'est mis complètement au sol. Moi, je me suis mis complètement au sol. Et il a eu un mouvement à un moment donné même qui m'a touché, qui m'a beaucoup marqué. Il était moins couvert que moi. Et il s'est mis par-dessus moi, en fait, carrément, pour me protéger des grêlons. Enfin, je sais pas si c'est comme ça, ah, c'est l'intention, mais me protéger des grêlons. Il avait les jambes à l'air, j'étais plus protégé que lui. C'est un geste qui m'a beaucoup touché, mais ça a duré 10-15 minutes, j'en sais rien, mais c'était interminable.
C'était long.
Interminable. Et on était. Il y avait deux, trois autres personnes dans les environs qui subissaient un peu ça, mais. Des inconscients, des fous, quoi. Ils avaient le parapluie. Et on voit des trucs en montagne, parfois c'est hallucinant. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Bon, là, en tout cas, on était suffisamment éloignés d'eux, mais les conditions étaient un peu dantesques.
Ouais. C'était apocalyptique, mais apocalyptique sur le moment. Effectivement, après, ça fait un bon souvenir à raconter.
Oui,
effectivement. Mais on est content d'en sortir. Et content, effectivement, d'arriver à Miage un peu sain et sauf, dans la mesure où. Peut tout arriver. Hein. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait ça change terriblement vite en montagne. Et quelles que soient les prévisions, il faut faire attention effectivement et prévoir en conséquence parce que.
C'est venu à une vitesse incroyable.
Ouais. Ouais. Et c'est reparti presque aussi vite que il a fait beau 15 minutes après. La descente du col du Tricot, pour celles et ceux qui connaissent, effectivement, du coup, était assez technique dans la mesure où, vu ce qu'il était tombé, c'était devenu une patinoire. Donc on est descendu tranquillement jusqu'à Miage et on a fait une jolie photo en poncho et on était content d'en sortir tranquillement et d'aller faire sécher tout ça comme il fallait au refuge.
La fierté d'avoir fait ça, etc. Je l'ai ressenti surtout au chalet de Miage. J'ai dit, bon voilà, là c'est fait, quoi, c'est bouclé. Et la grande satisfaction, ouais, c'était un... C'est pas du soulagement, c'est parce qu'en fait ça s'est passé très très bien finalement, un jour près. Mais non, c'est une fierté et un grand bonheur d'avoir fait ça avec Mathieu.
Mmh. Ouais, c'est pareil, juste fierté et puis surtout heureux pour lui. Mmh. Heureux pour lui parce que il s'est prouvé qu'il était capable. Et puis on a porté des choses géniales. Et je pense que ce petit orage en fait, alors effectivement c'était... Mmh. C'était pas forcément ce qu'on aurait voulu vivre, mais ça a ajouté le petit piquant qui pas qui manquait parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Mais le petit truc en fin d'itinérance qui permettait en fait de boucler le truc de manière un peu de boucler l'histoire en tout cas ou en tout cas d'agrémenter l'histoire de manière un petit peu plus sympa. Et ouais, super fier de lui quoi.
Que j'en retiens aussi, c'est un moment de vie intense. Bon, pendant 7 jours, on a l'impression, on vit, voilà, on se sent vivre vraiment, quoi. Quelque chose de fort, quelque chose de...
De simple.
De simple aussi, ouais. Dans un environnement sublime.
Se faire confiance et de croire en l'autre. Je pense que c'est ce qui pousse à réussir ce genre de défi et puis de le faire dans la conscience de ses capacités aussi. Et de l'autre aussi, être conscient des capacités de l'autre, sans les sous-estimer, sans les surestimer. Mais bon, c'est après il faut se connaître, mais ouais, et sans hésiter le faire quoi, parce que c'est des moments incroyables.
Le seul conseil c'est que je peux donner pour d'autres pères ou d'autres comme moi, c'est de, dans la mesure de ses capacités bien sûr, de ses relations avec ses enfants, de foncer. Pour avoir ce type d'expérience avec ses enfants. Et c'est magique, quand même. C'est magique, vraiment.
Petit bond dans le futur. Quelques jours après l'enregistrement de cet épisode, Mathieu a pris le départ de la mythique course de l'UTMB. Un rêve devenu réalité. Il en est venu à bout, après 26 heures et 33 minutes d'effort, et a pu compter sur le soutien sans faille de sa famille pour l'accompagner et l'encourager sur les sentiers. Ce tour du Mont Blanc père-fils n'a fait que confirmer leur envie commune de renouveler l'expérience et de perpétuer ces aventures aussi longtemps que possible. La dernière en date, le tour de Belle-Île-en-Mer. Et la prochaine, peut-être le Beaufortin. Bref, comme vous le voyez, les idées ne manquent pas. Team Trail Experience est un podcast du Team Trail Paris, une association de coureurs parisiens dont le terrain de jeu favori est la montagne. Team Trail Experience, c'est un épisode par mois pour vous faire vivre les aventures running et trail d'athlètes amateurs, passionnés et passionnants. On vous dit à bientôt pour de nouvelles histoires.